Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Jean 7. Jean 7, au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, il est écrit au dernier jour de la fête. C'était lorsque nous lisons au verset 10, il s'agit de la fête des tabernacles. C'était la fête des tabernacles. Lorsque nous lisons les versets qui précèdent le verset que nous avons lu, Jésus était parti à la fête des tabernacles. Et à la fin de la fête des tabernacles, il dit: celui qui a soif, qu'il vienne. Et qu'il boive. Celui qui croit en lui, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et les paroles de Jésus sont très, très, très fortes. Parce que je veux vous expliquer le contexte. Les Juifs avaient l'habitude, après la fête des Soukhot, donc la fête des tabernacles, et ils appellent ça Soukhot, après ça, après cette fête-là, ils avaient l'habitude de faire la prière de la pluie. Puisque en Israël, la pluie n'est pas donnée comme dans nos pays, la France et autres. En Israël, la pluie, c'est une richesse. Il ne pleut pas régulièrement. Et donc, l'eau a une grande importance. Et cette importance est là aussi dans la vie de tout homme. Mais là-bas, ils vivent cette importance-là. Et donc, après la fête des tabernacles, ils avaient l'habitude de faire la prière de la pluie. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ vient dire: vous qui cherchez la pluie, vous qui cherchez l'eau, venez chez moi. Donc, on comprend mieux le contexte. On comprend que les Juifs qui étaient à côté avaient bien discerné qu'est-ce que Jésus voulait dire. Il voulait dire que le Dieu que eux ils priaient pour qu'il envoie l'eau, eh bien ce Dieu-là, c'est Jésus lui-même. Donc ces gens qui étaient autour avaient bien compris la chose. C'est pourquoi ils s'énervaient. Parfois dans les textes bibliques, nous voyons les Juifs s'énerver. Nous, les gens d'aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que nous comprenons pas le contexte. Eux, ils comprenaient le contexte. Quand il dit « avant qu'Abraham ne fût, moi je suis », donc c'est vrai que on se dit, mais donc il vivait avant Abraham. Mais ce n'est pas seulement le plus grand problème pour les Juifs. Le problème des Juifs, c'est que Jésus avait dit « je suis ». Or, cette phrase-là, « je suis », ce n'est que Dieu qui le disait. C'était le nom de Dieu. Quand Jésus dit « avant qu'Abraham, je suis », pour nous, on se limite au côté, mais il existait avant Abraham. Mais dans ce cas, il allait dire « avant qu'Abraham ne fût, j'étais ». Ou bien il allait utiliser encore un passé encore beaucoup plus antérieur, beaucoup plus profond. Mais Jésus utilise le présent, et ce n'est que Dieu qui utilisait ça, « je suis ». D'ailleurs, Dieu avait dit à Moïse, « si on te demande mon nom, dis-leur, je m'appelle, je suis. » C'est Jésus qui t'a envoyé. Et donc, les Juifs comprenaient bien. Et à chaque fois, donc, ils l'attaquaient. Et Jésus dit, « les sources, c'est moi qui les donne. » Notre thème de ce soir, c'est « mes sources sont en toi, Dieu. » Nos sources sont en Dieu. C'est Dieu qui est la source de la vie, de la bénédiction, de la protection. Nos sources sont en Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas à dire que celui qui vient en lui va boire. Non seulement il va boire, mais il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler. Donc quand Jésus te donne, il veut que ça coule. Il ne veut pas que ça s'arrête à toi. Il a donné une explication en même temps. Dieu est la source. Jésus est la source. Il donne. Et quand il donne, il faut que ça coule. Le fleuve d'eau vive coule. Mais nous, quand Dieu nous donne, on garde. On garde la gloire pour nous, on garde les bénédictions pour nous, on garde la parole pour nous, on garde l'argent pour nous, on garde. Et comme la manne, ça finit par pourrir notre vie. Dieu veut que ça coule. Nos sources sont en toi. Et il est écrit dans Psaume 87. Psaume 87. À partir du verset 6. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources sont en toi. Qu'est-ce qui fait qu'on pêche? Entre autres, c'est parce qu'on oublie que nos sources sont en Dieu. Quand quelqu'un vole parce qu'il a oublié que c'est Dieu qui est la source. Quand quelqu'un ment pour cacher quelque chose, il a oublié qu'il n'a pas besoin de mentir, Dieu va pourvoir. Il n'a pas besoin d'escroquer, Dieu va donner. Et le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, il dit, mais pourquoi vous inquiétez du boire et du manger? Est-ce qu'on peut comparer le boire et le manger à la vie? Fabriquer la vie, c'est bien plus compliqué que fabriquer la nourriture. Il dit, mais si Dieu vous a donné la vie, donc il va donner aussi la nourriture. Je commence à parler aux gens qui ne croient pas en Dieu. La vie que tu as, la force que tu as, est-ce que ça vient de toi? Ça ne vient pas de toi, parce que tu ne l'as pas décidé. C'est Dieu qui te l'a donné. Les gens qui ne sont pas chrétiens, leur être vient d'où? C'est Dieu. Le souffle vient d'où? C'est Dieu. Ils auraient pu naître dans des endroits où il y a la guerre. Ils n'auraient pas eu le temps de construire des maisons. Tu aurais pu naître dans un endroit où il n'y a pas d'électricité. Où on dort dans des huttes. Aujourd'hui, les vêtements que tu mets, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu n'as pas décidé avant que tu naisses ce que tu seras. Donc, tout ce que tu vis comme force, comme richesse, comme puissance, c'est Dieu qui te l'a donné. Le poste que tu as, professeur, président, meilleur athlète. Mais pourquoi tu es meilleur athlète? Parce que Dieu t'a créé avec les jambes qu'il faut. Dieu t'a créé avec les bras qu'il faut. Dieu est la source. Nos sources se trouvent en lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Les humains, Dieu leur donne les facultés, l'intelligence, la personnalité, la force. Et c'est ça qui les distingue. Et c'est ça qui leur donne des avantages. Mais ils prennent maintenant, eux, cette force-là, cette intelligence, cette beauté-là, cette richesse pour s'opposer à Dieu, pour vivre loin de Dieu. Au lieu de dire, tiens, si je suis le meilleur footballeur aujourd'hui, je suis né avec certaines capacités, ça ne vient pas de moi. Si je suis le meilleur guitariste aujourd'hui, je suis né avec certaines capacités. Si je suis le meilleur peintre aujourd'hui, je suis né avec certaines capacités. Au lieu de se dire, mais tiens, quand même, je dois chercher qui m'a donné ces capacités-là. Non. Les gens se servent de ces capacités pour dire, je suis fort, je suis le plus grand, le plus beau, le plus intelligent, et donc je n'ai pas besoin de Dieu. Donc, ce qui devait servir à les amener à Dieu, eux, ils s'en servent pour régner Dieu. C'est ça la réalité. Les sources sont à Dieu, sont en Dieu. Il y a des gens qui sont devenus brutalement présidents. Brutalement. Il n'a lui-même pas décidé. Il y a des gens qui l'ont poussé, tiens, vas-y, allez, on te met président. Et quand ils arrivent, au lieu de se dire, tiens, je ne l'avais pas décidé, c'est tombé sur moi. Donc c'est Dieu qui a mené les circonstances. Non, ils se disent, maintenant je suis président, je n'ai pas besoin de Dieu. Il y a des gens qui ont été nommés à des postes, sans qu'ils aient même pensé. On les a surpris. On t'appelle un matin, tiens, voilà le poste que j'ai décidé de te donner. On a parlé dans notre conseil et on a vu que tu travaillais bien et je te donne ce poste-là. Surprise, tu es content. Et dès que tu as le poste, tu oublies Dieu. Il y a des gens qui avaient des problèmes de maladie, qui ont reçu des guérisons. Peu importe qu'on ait prié pour toi ou pas, que ça vienne de la médecine ou pas, sache que quelque part c'est Dieu qui a mis sa main parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été guéris comme toi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été aidés comme toi. Donc quelque part, c'est pas toi qui l'as décidé. Tu n'es pas... si l'homme décidait sur son avenir, nous n'aurions pas l'avenir que nous avons aujourd'hui. Parce que chacun de nous veut un avenir différent de ce qu'il a aujourd'hui. Mis à part ceux qui se sont confiés en Jésus, eux, ils acceptent le plan de Dieu pour eux. Mais l'homme normal, l'avenir qu'il a, en général, il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut soit plus, il veut soit autre chose. Donc, quelque part, les avantages que nous avons viennent de Dieu. Parce que c'est lui qui décide. Et beaucoup de gens qui se disent païens, ils croient que leur force vient d'eux. Vient d'eux-mêmes. Ils se retrouvent avec un beau corps. Ils se retrouvent avec une grande intelligence. Ils se retrouvent fils ou fille d'un riche. Au lieu de se dire, tiens, je ne l'ai pas mérité. Je n'ai rien fait pour cela. Je n'ai rien fait pour naître fort. Je n'ai rien fait pour naître intelligent. Je n'ai rien fait pour naître en France, par exemple. Où tu vas à l'école. Chaque année, on te donne des livres. Même des cahiers gratuits. On se dit, ah. Vous savez, il y a beaucoup de Français, jeunes Français, on leur fait un voyage au Mali, au Niger, voir les écoles. Quand ils reviennent, ils deviennent très sérieux. Ils cherchent le travail. Les jeunes de 22 ans, 23 ans, on leur fait un petit tour au Mali, au Niger. Ils voient les écoles, ils voient comment le travail s'obtient là-bas. Quand ils reviennent tranquillement, ils suivent les conseils de l'ANPE, ils vont faire une formation. Donc, ils deviennent justes. Ils comprennent que nous avons une grâce d'être en France. Bien-aimé, où on te supplie de boire le lait. Bois ! Ah, j'ai pas faim. Parce que tu es en France. Où les chats n'ont même plus envie de manger les souris parce qu'ils sont rassasiés déjà, bien-aimé. Tu es en France. C'est une grâce. Les gens sont là. J'ai tout fait pour venir. Mais oui, mais tu n'es pas le seul à avoir tout fait pour venir. Beaucoup d'autres ont fait tout pour venir en France. Ils se sont noyés entre l'Espagne et le Maroc. Voilà. Mais mes parents sont français, mais tu n'as pas décidé que ce soit tes parents. Ce sont des grâces. On se retrouve avec ces grâces. Au lieu que ça nous serve pour dire merci mon Dieu, je vais te servir, je vais te rendre gloire. On se dit non, c'est à moi. On s'est coupé de la source. On se coupe de la source. Dieu dit ne vous coupez pas de la source. Jérémie, chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Dieu pose la question, quelle erreur j'ai commise pour s'éloigner de moi? Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant, pour suivre des dieux en statue, des idoles qu'eux-mêmes ils ont construites. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel? Qui nous a fait monter du pays d'Égypte? Qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme? Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Bien-aimés, voilà ce qui est honteux. Dieu dit, mais est-ce qu'il y a des pays qui décident de changer de dieux? Pourtant, ils ont des faux dieux, mais ils les gardent. Le catholicisme, le célibat, vous savez, ça n'a pas commencé par une logique spirituelle. C'est parce que quand les prêtres mouraient autrefois, il y avait un problème d'héritage. Donc, l'Église luttait avec les héritiers toujours par rapport au terrain, par rapport aux choses qui restaient, parce que parfois il y avait confusion entre ceux qui appartenaient au mouvement catholique et au prêtre lui-même en tant que personne. Alors, quand il mourait, il y avait toujours des conflits entre le mouvement catholique et les héritiers des prêtres. C'est là qu'ils ont décidé que dorénavant, les prêtres vont devenir célibataires. Comme ça, on sait où va l'héritage directement au mouvement catholique. Mais combien de fois ils ont eu des pressions? Est-ce qu'ils ont changé ça? Le célibat, ils n'ont pas changé. Combien de prêtres n'ont-ils pas des enfants? Combien de prêtres ne sont pas tombés dans la pédophilie? Vous avez suivi les infos ces derniers temps. Mais malgré ces pressions-là, ils maintiennent le célibat. Donc des gens qui ont un faux système le maintiennent quand même. Mais Dieu dit, mais comment vous avez pu changer? Moi, j'étais votre Dieu, je ne le suis plus. Y a-t-il, verset 11, une nation qui change ses dieux? Quoi qu'il ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà notre verset principal. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné pour moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées. Vous savez, à l'époque, les habitants de la terre et les gens qui habitaient ces contrées-là creusaient des citernes, faisaient des citernes, des grands trous dans le sol pour retenir l'eau. Et il y avait différentes qualités de citernes. Il y avait des citernes qui étaient bien faites et qui retenaient l'eau de la pluie, qui les gardaient. Et il y a des citernes qui avaient comme des crevasses, des ouvertures. Donc quand l'eau entrait, l'eau glissait à travers ces ouvertures et ça ne restait pas. Des citernes crevassées. Il dit, mais comment vous avez pu m'abandonner, moi, qui suis la source? La source, personne ne crée cela. C'est là, elle existe en elle-même depuis longtemps. On la trouve, on ne la crée pas, une source. Moi, je suis la source. Vous préférez construire, faire confiance en des faux dieux. Ces faux dieux-là sont des citernes crevassées. Voilà ce que Dieu dit. Vous savez, Dieu n'était pas contre qu'il y ait des citernes. Le système des citernes n'est pas mauvais en soi. Mais Dieu fait cette comparaison pour qu'on comprenne que lorsqu'on se coupe de lui, ce que nous croyons être une citerne que nous sommes en train de bâtir pour garder l'onction qu'on a eue, pour garder l'argent qu'on a eu, pour garder les bénédictions qu'on a eues, en réalité, ce sont des citernes crevassées. Elles vont fuir. Elles vont laisser passer l'eau. Et tu n'auras plus rien à un moment donné. Nous croyons garder des choses. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit, celui qui pense garder, sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd, la sauvera. Nous pensons garder, Dieu nous dit, ce sont des citernes crevassées, des citernes trouées, et ça va laisser passer l'eau, et tu ne vas te retrouver avec rien. On ne doit pas se couper de la source. Dieu dit, mais qu'est-ce qui vous prend de me couper de la source? C'est moi la source. Et c'est pourquoi Jésus leur a dit, donc, le jour de la, donc, à la fin de la fête des tabernacles, venez à moi. C'est moi qui peux vous donner l'eau. Je suis la source, et je ferai de vous des fleuves d'eau vive. Venez à moi. Dieu t'a créé. Il t'a donné certaines facultés. Il t'a créé en te produisant dans une famille donnée. Il t'a créé en te produisant dans un pays donné. Il a permis un parcours pour toi. Parce que beaucoup auraient voulu avoir ton parcours, ils ne l'ont pas. Mais au lieu de te dire, tiens, je me retrouve avec toutes ces qualités. Je me retrouve avec de l'argent. Je me retrouve avec de l'intelligence. Mais je ne l'ai pas décidé. Bon, je vais rendre gloire au Créateur. Non. On préfère se servir de ça pour critiquer le Créateur et pour s'éloigner de lui. Et certains me diront, mais oui, mais il y a des endroits où il y a la famine. Justement, quand il y a la famine, quand il y a la détresse, quand il y a la guerre, c'est pour dire quoi? C'est pour nous amener à nous questionner sur le Créateur. Je me suis retrouvé ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour nous amener à lui parler. On se plaint qu'il y a la famine, il y a les maladies, il y a tout ça. Mais lorsque nous vivons dans des contrées où il n'y a pas tout cela, nous ne voyons pas des gens remercier Dieu parce qu'il n'y a pas la guerre chez eux. Nous ne voyons pas des gens se tourner vers Dieu parce qu'ils sont dans un pays qui les protège des assassins. Non, ils ne se tournent pas vers Dieu. Ils se disent, notre pays devient notre Dieu parce qu'il nous protège. Notre pays devient notre Dieu parce que dans notre pays, la terre est fertile. Au lieu de dire, mais tiens, on ne l'a pas décidé, on l'a trouvé ainsi, rendons gloire au Créateur. Non, les gens préfèrent se couper de Dieu. Et quand ils se coupent de Dieu, il y a toujours des conséquences graves. Et nous connaissons les conséquences. Les conséquences, c'est les maladies. Les gens se coupent de Dieu avec le péché, la cigarette, l'impudicité. Nous connaissons les conséquences, le sida, la délinquance, les maladies, la dépression, parce qu'ils se sont coupés de la source. Ils ont cru que leurs citernes étaient de bonnes citernes, c'est des citernes crevassées. Ton compte bancaire peut être aussi grand que tu veux. Un jour, ça va devenir pour toi ce que c'est aujourd'hui en réalité, une citerne crevassée. Parce que devant la guerre, ton compte bancaire ne te servira de rien du tout. Devant le cancer, ton compte bancaire ne te servira à rien. Devant l'infertilité, ton compte bancaire ne te servira de rien. Vous savez, il y a des gens, des agriculteurs qui pleurent. Ah, mais il n'y a pas la pluie. Le compte bancaire ne sert plus à rien. Parce que ce n'est pas le compte bancaire qui va faire pleuvoir. Est-ce que c'est l'argent qui peut arrêter le feu qui brûle à Moscou? Non. Ils attendent la pluie pour arrêter tout ça. À un certain moment, ce que tu penses être une force va devenir une citerne crevassée. Quand tu vas tenir ton frère qui est en train de mourir entre tes mains, ta force physique, ça va faire quoi? Nous connaissons des gens qui ont tenu leur enfant mourant dans leurs mains. Mais c'était des gens réputés costauds, forts. Mais un jour, tu tiens ton enfant qui meurt dans tes mains. Ta force va faire quoi là? L'argent va faire quoi en ce moment-là? C'est là que tu te rends compte que ce que tu considérais comme citerne, en réalité, n'est qu'une citerne crevassée. Et Dieu, c'est ce qu'il permet dans ce monde pour confondre les gens, pour leur dire, votre force n'est rien du tout. La vraie force, c'est moi. Venez à moi. Mais je ne veux pas parler qu'aux païens. Je veux parler à nous les chrétiens qui sommes devenus, la plupart d'entre nous, traîtres vis-à-vis de Dieu. Nous avons prié pour recevoir des choses. Nous avons été sauvés sans l'avoir décidé. C'est Dieu qui nous a cherchés et nous a trouvés, bien-aimés. Ce n'est pas toi qui as décidé de trouver Dieu. Dieu t'a parlé dans ton cœur par des questionnements. Toi, tu crois que c'est toi, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te préparait à recevoir le Sauveur Jésus-Christ. Il t'a dérangé par la conviction de péché, de justice et de jugement. Et un jour, tu as cédé. C'est sa grâce. Tu as été sauvé. Tu as reçu des dons spirituels. Tu as reçu de bénédictions. Les maladies sont parties. Dieu t'a mis dans l'église où on ne s'occupe pas de critiquer les gens sur leurs défauts physiques. Alors que dans le monde, les gens sont sans pitié. Dieu t'a mis dans l'église où on ne s'occupe pas de savoir quel est ton diplôme, quel est ton compte bancaire. Tu es dans une belle atmosphère. Après, tu deviens traître. Tu oublies ton Dieu parce que tu veux te construire des citernes crevassées. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Salomon? Puisque tu m'as demandé la sagesse, je vais te donner la gloire et la richesse. Bien-aimé, est-ce que Salomon n'est-il pas devenu riche? Très riche, à tel point que la Bible dit qu'aucun roi de son époque n'était autant riche que Salomon. Aucun. Mais quand il a commencé à avoir une petite sécheresse, Salomon augmente les impôts sur les gens. Même ses conseillers lui disent, mais roi, les gens, le peuple souffre, les impôts sont trop lourds, mais il les a laissés ainsi. Donc il a oublié la source qui était Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné. Il oublie que c'est Dieu qui lui avait donné. Il commence à vouloir s'attacher aux impôts. Ce sont les impôts qui vont l'enrichir. Alors que c'est Dieu qui l'a rendu riche. On oublie très vite. On oublie très vite. Nous, les humains, c'est comme si nous voulons que chaque matin, Dieu te rappelle, une voix te dise, sache que tu vis par ça parce que Dieu t'a donné la vie. Sache que tu es ceci à cause de Dieu. Donc, mais non, mais Dieu ne va pas faire ça. Il faut que nous-mêmes, nous soyons humbles pour reconnaître cela. Que ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Combien de gens qui se noyaient n'ont-ils pas prié? Seigneur, si tu me sauves, je te servirai. Certains, dans des situations très difficiles, ont dit, Seigneur, si tu me sors de cette situation, je te servirai. Dès qu'ils sortent de la situation, ils oublient l'ingratitude. Et ils préfèrent aller se construire leur propre source. Combien de gens, quand ils se sont convertis, ils ont dit, Seigneur, je me livre à toi. Et ils étaient heureux. Vous savez, c'est ce que Dieu dit. Mais Israël, quand tu étais jeune, au verset 2, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu étais encore jeune, converti, tu étais heureux. Tu ne te souciais pas de prêcher. Tu ne te souciais pas qu'on te mette à la chorale. Tu ne te souciais pas d'un quelconque don spirituel. Tu étais heureux, tu ne te souciais pas d'avoir une grande église dans une grande église. Mais voilà, avec le temps, tu commences à te soucier de tel ou tel autre don spirituel. Tu veux prêcher, tu veux ceci, tu veux cela, et tu n'es plus heureux. Quand tu étais jeune, Dieu dit, mais tu étais bien. Je me souviens de ton affection quand tu étais fiancé. Maintenant que tu es quelqu'un, tu m'oublies, bien-aimé. Salomon, maintenant qu'il était devenu riche, maintenant qu'il était devenu roi, maintenant qu'il gérait le pays comme il faut, il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné la sagesse pour gérer le pays. C'est lui qui avait demandé la sagesse. Il avait dit à Dieu, j'ai besoin de sagesse pour gérer le pays. Pour gérer ton peuple, Dieu lui donne la sagesse. Maintenant, il lui donne la sagesse, il organise bien les choses. Et il commence à se fier à son organisation, au lieu de se fier à Dieu. Dieu lui donne la richesse. Des gens se déplacent, des rois se déplacent. Beaucoup de peuples se déplacent avec de l'argent, de l'or pour donner des cadeaux à Salomon. Et Salomon est devenu très riche. Est-ce que Salomon est devenu riche par les impôts du pays? Non, il est devenu riche par les cadeaux que les gens lui amenaient parce que Dieu les touchait. Maintenant qu'il n'avait plus beaucoup de choses, allez, impôts. Parce qu'il contrôlait bien le pays. Il est parti chercher les citernes crevassées. Et nous avons vu comment Salomon a fini. Saül, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout connu. Inconnu, son père l'a demandé d'aller rechercher des ânes qui s'étaient perdus. Il part avec des amis rechercher les ânes qui étaient perdus. C'est là que Dieu dit à Samuel, il y a un jeune homme là qui est en train de chercher les ânes ou les chevaux de son père. Si tu le trouves, prie pour lui. C'est lui qui devient le roi d'Israël. Samuel arrive, il le trouve, il prie pour lui, il devient le roi d'Israël. Saül devient le roi d'Israël. Dieu lui donne une instruction par Samuel. Il n'écoute pas. Il lui donne une deuxième instruction. Il n'écoute pas. Dieu dit à Saül, il dit, mais Saül, tu étais petit, et à tes yeux et aux yeux de tout le monde. Toi-même, tu te considérais comme petit. Moi, j'ai fait de toi un roi. Maintenant, je vais te donner des ordres, tu n'obéis pas. Ah! Maintenant, tu es rejeté. Bien-aimé. Nous étions petits. Souvent, moi je dis, quand quelqu'un veut me donner une importance, je dis, mais non. J'étais petit. Je n'avais pas ceci, je n'avais pas tout ça. C'est Dieu qui m'a donné. Alors si ça doit partir, ça part. Parce que je n'avais pas ça avant. Si quelqu'un veut me donner des honneurs, amen. Non. Moi, je n'étais pas pasteur avant. C'est Dieu qui a fait ça. Alors je ne veux pas en tirer honneur. Je ne veux pas en faire une citerne. Parce qu'elle serait une citerne crevassée. Je préfère être branché à la source. Dieu dit, vous m'avez abandonné, moi, la source d'eau vive. Qui coule. Vous savez, déjà, la source, quelles sont les valeurs de la source? Non seulement elle coule indéfiniment, mais l'eau qui sort de la source est pure. Bonne, vivante. Alors que l'eau d'une citerne, elle est stagnante. Il y a des microbes. Parce qu'elle est conservée dans un endroit. Elle est trouble parfois. L'eau de la source est pure, vivante, belle. Dieu dit, vous avez préféré les citernes. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait. Vous savez, on parle de... De beaucoup de personnes qui n'étaient rien du tout, qui habitaient des cabanes. Dieu lui donne une voix. Elle commence à chanter. Il commence à chanter. Et il finit dans des grosses villas. Et quand il arrive à ce stade-là, il dit, c'est ma voix qui est ma force. C'est mon onction qui est ma force. Dieu dit, malheureusement, tu as choisi des citernes crevassées. Tu vas voir ce que tu vas voir. Bien-aimés, nous, on a connu des chantres qui, en 3 ans, ont composé environ 30 chants. Mais après ces 3 ans-là, en 10 ans, ils n'ont composé aucun chant. Comment expliquer ça? Bien-aimés, nous qui chantons et qui composons, nous devrions plus craindre encore Dieu. Parce que, vous savez, la musique, c'est l'inspiration. Tu ne peux pas forcer, tu ne peux pas rester là. Je compose un chant, tu commences à écrire, ça ne viendra pas du tout. Soit c'est Dieu qui inspire, la chair n'a qu'une faible place côté inspiration. Très faible. Tu peux apprendre la musique, avoir une très belle voix. Très fort dans les instruments. Mais l'inspiration ne vient pas parce que toi tu sais répéter comme les autres. Tu sais répéter ce que les forts font. Pour que toi ça vienne, c'est une source. Inspiré vient du mot vent. C'est comme si le vent souffle et toi tu captes ça, on te fait mettre ça dans la tête. Et quand Dieu retire l'inspiration, tu te retrouves sec. Et maintenant tu es obligé de quoi? De chanter des cacahuètes ou bien de chanter les chants que tu as sortis il y a 10 ans, 15 ans, tu les répètes, tu les remixes, les gens sentent qu'il n'y a plus rien du tout. Bien-aimés, nous qui prêchons, nous devons craindre Dieu encore plus, parce que c'est l'inspiration. Tu ne peux pas décider, c'est des choses qui viennent. Mais quand Dieu retire ça, tu peux toujours prêcher scientifiquement, mais les gens sentiront que c'est scientifique. Les gens sentiront que c'est de l'escroquerie, parce qu'il y a aussi Satan qui inspire. Satan peut t'inspirer des choses qui semblent toucher, mais les vrais, ça ne les touchera pas. Ça touchera les faux chrétiens. Ça ne touchera pas les vrais chrétiens. Faisons attention, bien-aimés. Nous avons connu beaucoup de chantres qui ont fait succès, des prédicateurs qui ont fait succès, mais qui ont cru que c'était eux qui étaient devenus la citerne. Eh bien, ils ont mal fini. Humilions-nous devant Dieu. Ne construisons pas des citernes crevassées. C'est Dieu la source. Même dans notre vie chrétienne, on a passé 3 ans, 4 ans. On avait l'impression que le péché n'existait plus. Subitement, ça commence à revenir, à t'attaquer. Au lieu de t'humilier, de dire, mais tiens, si il y a 3 ans, je me suis senti bien, Dieu m'avait aidé, ben je vais prier ce Dieu. Je vais jeûner, je vais prier, je vais m'humilier, je vais confesser. Non, on joue l'effort. On ne veut pas confesser devant Dieu. On ne veut pas confesser devant les frères. On fait semblant qu'on est fort. On a oublié que quand on était fort autrefois, ce n'était pas notre force, c'était celui qui était en nous qui était plus fort que celui qui est dans le monde. Et qu'il est toujours. Au lieu de revenir à lui, on se fait des raisonnements. On commence même à condamner la Bible. Pourtant, la Bible a dit ceci. Pourtant, il est écrit ceci. Pourquoi moi, je suis en train de vivre encore telle situation? Mais oui, mais ça, il y a 2 ans, tu ne vivais pas ça. Alors, fais référence à ça pour dire, Seigneur, il y a 2 ans, je ne me sentais pas faible comme ça. Il y a 2 ans, j'étais victorieux du péché. C'est que j'ai commis une erreur quelque part. Montre-moi mon erreur. Et le Seigneur te montrera ton erreur. Tu prieras, tu confesseras, tu demanderas pardon, et le Seigneur te restaurera. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on fait? On veut cacher son erreur. On veut cacher nos faiblesses. On veut cacher. Et en cachant, en voulant montrer qu'on est fort, ben, on est en train de construire des citernes crevassées qui vont vite se révéler être nulles. Vite se révéler être nulles. Parce qu'on a oublié que la source, c'était Dieu. La source, ce n'est pas les gens. Bien aimé, il y a des serviteurs qui n'avaient rien. Tu commences l'œuvre de Dieu. Après, il y a 400 personnes qui te soutiennent. Tu oublies que c'est Dieu qui a suscité ces 400 personnes pour te soutenir. Tu commences à les considérer eux comme des citernes. Bon, comme on apprend, les gens vont faire un comité des gens riches de l'Église. Oh! Qui vous a dit que les gens riches de l'Église peuvent aider l'œuvre de Dieu? Non! L'œuvre de Dieu, c'est lui-même. Ce n'est pas les gens riches. Parce que leur richesse, la source, c'est Dieu. Vaut mieux être branché sur Dieu lui-même. C'est Dieu qui pourvoit. Et on commence à demander l'argent aux gens. On commence à faire des appels de fonds. Les 1000 dollars passent d'abord, les 500 après, les 100. On va prier pour eux. Pourquoi? Parce que on n'est plus branché à la source. On veut se construire ces citernes crevassées. Il y a même des gens qui ont la liste des gens qui doivent donner la dîme. Donc, ils vérifient. Il y a des pasteurs qui, avant vers le 3 plutôt, s'ils voient que la quantité qui tombe n'est pas tombée, ils passent carrément dans les maisons. Dis, mais ma sœur, ces choses-là, il ne faut pas les garder à la maison. Toi-même, tu comprends ces choses-là, c'est quoi? Ces choses-là, il ne faut pas les garder à la maison. Parce que la source s'est arrêtée. Il a coupé avec Dieu. Il préfère des citernes. Les humains sont des citernes crevassées. Parce qu'il peut être licencié, il peut être envoyé, il peut mourir. Tu vas faire quoi? Mais Dieu ne meurt jamais. Il ne se fatigue jamais. C'est une source d'eau vivante. Ça coule, ça ne fait que couler. Ça ne s'arrête pas. Et nous, on veut contrôler, bien-aimés. Restons humbles. Pourquoi les gens mentent? Pourquoi les gens volent? Parce qu'ils n'ont pas de source. Quelqu'un qui est sûr qu'il a des sources de Dieu, il ne va pas voler. Dieu va donner. Il ne va pas mentir. Dieu va donner. Il ne va pas mendier. Son père va donner. Les gens arrivent à mentir, à voler, à mentir à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas branchés à une source. Ils ne sont pas branchés. Et vous savez, l'un des problèmes d'Israël aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas être branchés à Dieu. Ils construisent toutes sortes de systèmes modernes de gestion d'eau, de l'eau. Ils prennent même l'eau de la mer morte pour transformer ça en eau consommable, pas forcément à boire, mais on peut utiliser ça à autre chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que même la mer morte, aussi mer soit-elle, eh bien, elle devient et ça sèche. Donc, vous savez qu'il y a des lacs qui se sont asséchés. Il y a des films de Français dans le lac Tchad, dans les années 30, les années 50 même, où ils faisaient du commerce, les gens faisaient du commerce sur le lac Tchad. Aujourd'hui, ce lac n'existe pas. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, il y a des bateaux qui reliaient les deux rives. Aujourd'hui, ce lac n'existe pas. Il n'y a pas que ce lac-là. Il y a d'autres lacs, la mer d'Aral. Donc, il y a des mers qui s'assèchent. Alors, toi, tu vas te confier en quelle citerne? Vaut mieux être branché à la source. Et la personne qui nous parlait, la juive qui nous expliquait les choses en Israël, elle nous a dit le problème, c'est que nous ne voulons plus prier pour que Dieu nous envoie l'eau. Nous voulons gérer l'eau nous-mêmes, l'eau terrestre. Mais c'est toujours des problèmes. L'homme préfère gérer, contrôler. Et vous savez, en hébreu, l'eau c'est Maïm et le ciel c'est Shamaïm. Donc c'est en quelque sorte, c'est pour montrer que l'eau en réalité vient du ciel. La gloire vient du ciel. Il y a un verset de la parole qui dit « L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. » Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Dans ma famille bien-aimée, j'étais la personne à laquelle on ne pouvait pas penser s'il fallait parler de quelqu'un qui devienne un chrétien qui puisse apporter la parole. On ne pouvait pas penser à moi. J'étais sec. Même avant de manger, mes frères priaient, mais moi je ne priais pas. J'étais sec. C'est Dieu qui est la source. Un jour, il te touche. Toi qui étais sec, tu commences à respirer. Et dès que tu commences à respirer, tu veux commencer à faire le chef, le grand, bien-aimé. Non, la source, c'est Dieu. Nos besoins, c'est Dieu. Les moyens, c'est Dieu. Moi, je vois même le Seigneur, tu n'avais pas de voiture, il te donne la voiture. Dès que tu as la voiture, tu commences à t'inquiéter. Le jour où tu n'auras pas, tu vas faire comment? Ah! Alors que tu n'avais pas, on te l'a donné. Maintenant que tu as, tu dis non, non, ça c'est venu du ciel. Moi, je vais gérer. Je vais savoir comment je ferai quand ça n'y aura pas. Donc, on fait tout pour l'entretenir, pour bien la vendre au bon moment. Et ça ne marche pas. Les citernes crévassées. Tu n'avais pas d'enfant, on te donne l'enfant, tu commences à tout faire pour le protéger. Dieu dit, mais tu n'en avais pas, moi j'ai donné. Maintenant tu m'oublies pour te consacrer à cet enfant-là. Citerne crévassée. Le jour où cet enfant te dira, je ne t'aime pas, c'est là que tu comprendras que tu as mis tes espérances dans une citerne crévassée. Le jour où cet enfant dira, j'en ai marre d'être à la maison, je m'en vais. C'est là que tu comprendras que tu as misé sur une citerne crévassée. La vraie source, c'est Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui économisent, qui économisent, qui économisent, qui économisent. Un jour, mauvaise nouvelle, toutes tes économies s'en vont. Tu te dis, mais si au moins j'avais profité, manger quelques pâtisseries avant, Mais c'est trop tard, bien-aimé. Si j'avais aidé les gens, c'est trop tard. C'est parti. Parce qu'on veut créer des citernes, bien-aimé. C'est ça le problème de l'homme, il ne veut pas de la source. Pourquoi? Parce que si on se laisse approvisionner par la source, on est obligé toujours de marcher par la foi. Et nous ne voulons pas marcher par la foi. Nous voulons contrôler. Comme j'ai l'habitude de dire, nous voulons avoir des bidons d'eau que nous gérons au lieu de faire confiance que l'eau sortira du robinet. On veut avoir des bidons qu'on gère. On veut gérer soi-même et on ne veut pas de la foi. Parce que la foi exige une dépendance à Dieu. Nous ne voulons pas de cela, bien-aimés, et c'est ce qui fait que nous nous coupons de la source et nous devenons secs. Vous savez, il y a un mot qui est important, très très important, c'est retenir. Quand on lit au verset 13 du chapitre 2 de Jérémie, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Que cache ce mot-là? Qui ne retiennent pas l'eau? Parce que ça cache le fait que l'objectif de celui qui fait une citerne, c'est de retenir l'eau. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès que Dieu nous donne une gloire, une bénédiction, un don, on veut retenir ça. On veut le contrôler. On veut le gérer. Moi, au début, quand je prêchais, le Seigneur, parfois, me donnait une prédication et je me disais, ben ça, je ne vais pas prêcher ça à un petit groupe, c'est tellement important, j'attendrai que ça soit un grand groupe. Citerne crevassée. Non. Quand le Seigneur donne une inspiration, c'est pour la donner. Ce n'est pas pour la garder pour un autre jour. Dieu va renouveler encore. On veut gérer, on veut contrôler les ressources du Seigneur. On veut les retenir. On t'a donné un poste dans une assemblée ou bien tu veux retenir. C'est comme si c'est ça qui devient ta richesse. Tu ne veux pas être branché sur l'élévation qui vient d'en haut du ciel. Tu veux faire retenir, prendre ce qui vient des hommes, c'est des citernes crevassées. Tu veux la reconnaissance des humains, c'est des citernes crevassées. La source, c'est Dieu bien-aimé. Il ne faut pas chercher à retenir. On veut maîtriser. Retenir, c'est maîtriser. Parce que pendant que tu puises, tu sais que c'est maintenant la moitié. Mais comment tu peux savoir que ce que Dieu te donne, c'est la moitié? Tu ne le sais pas. Avec Dieu, tu ne fais que manger. Tu ne sais pas est-ce que c'est la moitié. Est-ce que... Mais la Bible te dit que ce n'est même pas la moitié. C'est infini, ça ne s'arrêtera pas. C'est une source. Mais toi, ça t'embête de ne pas savoir. C'est... Le problème est là. Tu ne sais pas. Et tu vis comme ça, comme des oiseaux. Et tu ne veux pas de ça. Et quand tu ne veux pas de ça, tu te coupes à la source parce que tu vas te construire des citernes crevassées voulant maîtriser ta jouissance, voulant maîtriser, tes bénédictions. Ça ne marche pas. Et vous savez aussi, quand nous marchons avec Dieu, il nous est demandé quoi? L'obéissance et la soumission. Et comme on veut faire un peu comme on veut, on ne veut pas dépendre de Dieu. Vaut mieux que je me crée un bon système qui me donnera l'argent, qui me donnera telle chose, qui me... Voilà, mon système, c'est jeûner tous les 6 mois. Je vais jeûner 3 jours, comme ça, la puissance est renouvelée. Il y a des prédicateurs qui nous disaient comme ça, donc la puissance est renouvelée, oh là là. Donc, ils ont trouvé toutes sortes de systèmes pour obtenir la puissance de Dieu. C'est des citernes crevassées. Parce que quand Gédéon a reçu la puissance de Dieu, il était en train de faire le froment. Il n'était même pas... Quand Moïse a reçu la puissance de Dieu, il était en train de paître le troupeau. Donc, il n'était même pas en train de prier. Il n'était même pas en train de prier. Donc, toutes ces techniques-là, pour renouveler la puissance, c'est des citernes crevassées. C'est l'homme qui veut installer des choses pour gérer, pour contrôler Dieu. Ça ne peut pas marcher. Dieu est la source. Dieu, c'est la pluie. Qui peut contrôler la pluie? Qui peut décider sur la pluie? Personne. C'est quelque chose qu'on obtient par la soumission et la foi. C'est ça, bien-aimé. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Nous voulons de l'eau, Mais nous ne voulons pas de l'eau qui vient du ciel. Nous voulons de l'eau polluée que nous-mêmes nous retenons sur la terre. Mais Dieu nous prévient, tu ne pourras pas retenir ça parce que ta citerne est crevassée. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu te construis pour te sentir fort, ça ne sert à rien, c'est crevassé et tu vas le constater. Mais si tu t'appuies sur le Seigneur, tu ne seras jamais ébranlé. C'est ça la vérité, bien-aimé. Revenons à la source. Surtout, surtout que même l'eau que tu veux retenir, ça vient de lui. Oh, puisque ça vient de lui, laisse-le continuer à te donner. Pourquoi on veut retenir l'eau, bien-aimé? Parce qu'on est paresseux. Vivre par la foi, ça demande du courage. C'est les courageux qui vivent par la foi. Les paresseux ne peuvent pas vivre par la foi. Parce qu'ils ont peur. Mais le courageux dira, Dieu va faire. C'est lui qui avait fait hier, il va faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup d'évangélistes aiment le verset, Hébreux 13, 8. Hein. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a fait hier, va faire aujourd'hui. J'attends. David a dit dans le psaume 130, j'attends. J'attends avec patience le secours de l'Éternel. Comme plus que les gardes n'attendent le matin. C'est ça, bien-aimé. C'est un métier de courageux, la vie par la foi. Et les paresseux n'aiment pas cela. Sors de la paresse. Aie une vie de guerrier. Accepte cette vie-là par la foi. Vive par la foi. Le paresseux va dire, bon, on va faire 5 séances de prière. Après, je n'entendrai plus parler de ce problème. Après les 5 séances de prière, ça continue. Ah! Oh! Mais la Bible est fausse. Mais on a fait ce qu'il fallait. Le paresseux, c'est ça. Mais le combattant va dire, après 5 jours, ce n'est pas parti. Tiens, mais qu'est-ce qui est écrit dans Jean 19, 30? Tout est accompli. Alors, donc, je ne vais pas laisser le temps à ces gens-là. Voilà. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut chasser les gens de sa maison. Il ne sort pas après 5 jours. Il dit, bon, je leur laisse la maison. Oh! Il va aller vers un autre tribunal encore. Ça ne marche pas, il va aller vers la Cour européenne. Ça, puisqu'il est sûr que c'est à lui. Il est sûr. Il ne peut pas laisser ça, bien-aimé. Nous sommes sûrs des bénédictions de Dieu, c'est à nous. L'apôtre Paul dit, nous sommes peut-être pauvres en apparence, mais nous enrichissons plusieurs parce que nous sommes connectés à la source éternelle de richesse. Donc nous n'avons pas peur. Nous sommes riches. Nous n'avons pas besoin d'en avoir pour croire qu'on est riche. On le sait, on l'est, et on ne manquera de rien, chaque jour. C'est ça, bien-aimé. La source. Sortons de la paresse qui nous empêche de vivre par la foi. Soyons courageux. Et puis, il y a la rébellion. On a en nous une semence de rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est comme si on était nous-mêmes un Dieu. Nous-mêmes des dieux. Et ça nous embête d'avoir quelqu'un qui est encore chef sur nous. On aurait bien aimé nous-mêmes faire ce qu'on veut, être notre propre Dieu. On a tous cette semence-là, cette rivalité avec Dieu. Et c'est ce qui nous conduit à faire des citernes. Parce qu'on ne veut pas dépendre de Dieu, on veut dépendre de nous-mêmes. Parce que quand on s'abreuve à la source, c'est la dépendance à Dieu. Qui peut décider sur la pluie? Personne. Donc il y a une dépendance à Dieu. Dieu fera tomber la pluie quand lui il voudra. La météo veut prévoir la pluie, mais elle ne décide pas sur la pluie. Elle essaie de flairer si la pluie va descendre ou pas. Ah ben, même nous qui sommes ici, nous avons vu combien de fois elle s'est trompée même. Quoi. Puisque c'est Dieu qui décide sur la pluie. Et nous ne voulons pas de cette dépendance. Cette rébellion-là se manifeste lorsque quelqu'un est en train de faire des citernes. Vous savez, les gens, quand la Bible parle de rébellion, ils pensent que c'est dire, je ne crois pas en Dieu. Non, toi tu es chrétien, tu ne vas pas dire ça. Mais tu vas manifester ta rébellion en voulant gérer ta vie toi-même, en voulant faire des citernes, retenir l'eau, retenir la grâce de Dieu que Dieu t'a faite, retenir la voiture que Dieu t'a donnée, retenir la maison que Dieu t'a donnée. Tu veux retenir ça, tu veux en faire quelque chose de comme un joyau, tu veux pas perdre. Eh ben, c'est ça, la rébellion. Tu n'es pas branché à la source. Il n'y a pas la foi en Dieu. La soumission en Dieu, c'est dire, l'Éternel a donné, L'Éternel pourvoira et je ne manque de rien. Je vis au jour le jour parce que Dieu s'occupe de moi. Je n'ai pas besoin de faire des planifications excessives liées à la peur et non liées à la bonne gestion. Beaucoup font des planifications liées à la peur de l'avenir. Ce n'est pas biblique. On doit gérer bien les choses, mais des planifications liées à la peur, c'est de la rébellion. On creuse des citernes, mais qui vont se révéler être nulles. Dieu veut qu'on s'humilie devant lui. Et nous, nous refusons. On dit, si je n'ai pas ce que... Si je n'ai pas des choses que je contrôle moi-même, je suis obligé de jeûner. Je suis obligé de prier. Et c'est ça qui nous gêne. C'est pas pour rien que le Seigneur permet le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière montrent que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas toi. Humilie-toi, soumets-toi, dépends. S'il n'y avait pas le jeûne et la prière, notre orgueil s'exprimerait très fortement et nous mourrions. Le Seigneur permet que des situations nous dépassent afin que nous recourions à la prière et le jeûne. Comme ça, nous prouvons bien que nous sommes dépendants de lui. Et nous nous branchons maintenant à la source au lieu de faire confiance en nous-mêmes. Bien-aimés, ne fais pas confiance en toi-même. Tu n'es qu'une citerne crevassée. La vraie source d'eau vive, c'est le Seigneur. Vous savez, même dans le monde, on raconte l'histoire de la poule aux œufs d'or. Hein. Un homme avait une poule qui pondait des œufs en or. Lui s'est dit, ah, donc c'est bien, c'est ma poule. Mais j'attends, c'est elle qui pond, quand même. Ce n'est pas une poule qui va me diriger, donc je vais attendre les œufs quand elle veut. Moi, je vais tuer la poule, sûrement en elle, il y a un moyen de sortir les œufs, des œufs en or, bien-aimé. Il a tué la poule, croyant trouver un appareil qui fabrique les œufs en or. La poule est morte. Il n'a rien trouvé dedans. Et il n'a plus eu jamais des œufs en or. Parce qu'il ne voulait pas dépendre. Même le monde nous enseigne la poule aux œufs d'or. Tu viens, tu tues, tu te dis. Hier, on parlait avec un bien-aimé qui nous explique qu'il était quelque part. Un jardinier est venu travailler, c'est dans un pays d'Afrique. Il entre, il voit un portable extraordinaire pour lui. Hein. Il prend, il vole. Mais comme il savait qu'on allait le retrouver, qu'on allait comprendre que c'est lui qui a volé, il a quitté le boulot en même temps. Alors, vous savez à combien il a vendu le portable? Il a vendu le portable au salaire d'un mois de travail. Bon, donc toi, tu démissionnes, tu quittes le travail pour un salaire. Tu aurais pu même demander au patron une avance sur salaire et garder ton travail, garder ton réputation. Mais la soif, la convoitise et la volonté de contrôler, c'est ça le problème. Il ne veut pas dépendre d'un salaire qui vient d'un autre homme comme ça. Il veut voler et lui-même gérer. Voilà, bien-aimé. Donc, il quitte le boulot juste pour le salaire d'un mois. Voyez la bêtise humaine. C'est ça la bêtise humaine. Parce que l'homme ne veut pas dépendre. Il y a des gens, oh, mais Dieu parle avec tout le monde, hein, c'est pas seulement le pasteur. Hein. Moi, je mènerai ma vie telle que je l'entends. Le Saint-Esprit est avec moi. D'accord. D'accord. Rendez-vous dans 2 ans, bien-aimés. Le Saint-Esprit est avec nous tous, mais il a établi un certain ordre afin que nous soyons humbles pour dépendre les uns des autres. Et c'est ainsi qu'il peut faire que, justement, le serviteur de Dieu n'ait pas une rémunération autre, qu'il dépende aussi des autres. Donc, Dieu crée des interdépendances entre nous afin que nous soyons tous branchés sur la source au lieu de se brancher sur nos propres citernes crevassées. C'est ça, bien-aimés. Nous ne voulons pas de cette dépendance. Nous voulons une indépendance qui nous tuera. la poule aux œufs d'or. Au lieu d'attendre que les œufs sortent de la poule, lui, il a voulu aller les chercher à la source. Mais il a trouvé que c'était normal. Vous savez, quand tu prends, une vache, tu la tues, tu ne vas pas sortir des tonneaux de lait. Hein. Tu vas trouver seulement la viande, des intestins, des trucs comme ça. Mais c'est quand elle est vivante qu'elle peut sortir de l'eau chaque jour, du lait chaque jour. Mais là, tu dépends d'elle. C'est le principe, processus. Si tu refuses cette dépendance, tu veux aller à la source. C'est comme ça que beaucoup aboutissent chez les marabouts, aboutissent chez les féticheurs, parce qu'ils veulent les choses rapidement. Ils ne veulent pas dépendre de Dieu. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi beaucoup aboutissent chez les faux serviteurs, parce que les faux serviteurs promettent. À eux, ils ne blaguent pas. Ils disent, je prierai pour vous, vous allez voir. Votre vie va changer. L'élévation viendra dans votre vie. Et quand on dit élévation, c'est l'argent. Vous allez voir la prospérité. Les gens viendront vous demander à vos portes. Je dis, bon, ici on traîne, on nous dit tout le temps la sanctification, la repentance, tout ça. On connaît tout ça. Et c'est ce que les gens disent. On a beaucoup entendu ça, on connaît. Donc, voilà. Là-bas, c'est l'élévation, j'y vais. Mais tu vas aller là-bas, ça sera plutôt la mort, bien-aimé. C'est ça la réalité. Ils n'hésitent pas à promettre eux. Ils n'hésitent pas. Venez, vous allez recevoir votre miracle. Tu te dis, ah bon. Ici, tout le temps, patience, Luc 18, la veuve a prié. Ça fait longtemps qu'on prie. Là, c'est bon, quoi. Bon, c'est bon. Donc, toi, tu crois que le Dieu qui a donné Luc 18, c'est un autre Dieu que celui qui est en train de te promettre faussement des choses. Donc, si tu crois que c'est le même Dieu, tu devrais comprendre qu'il ne peut pas se contredire. Donc, il y a un problème. Donc, si tu vas là-bas, tu changes de Dieu. Parce que ce qui te dit, ça vient de la Bible, bien-aimé. Ce n'est pas facile parfois pour nous, les pasteurs, parce que certains veulent à tout prix obtenir des choses rapidement et ils veulent que ça sorte de ta bouche. Non, bien-aimé, il faut résister. Il faut prêcher la parole dans toute sa vérité, dans la simplicité. L'élévation vient de l'Orient. Elle ne vient pas de l'Orient. L'élévation vient du ciel. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Ne soyons pas branchés à des humains. C'est des citernes crevassées. C'est Dieu seul qui est la source. C'est ça la vérité. Le Seigneur, vous savez quand le Seigneur est mort? Il est ressuscité le troisième jour. Et certains disciples sont venus. Vous savez qu'est-ce que les anges ont dit? Pourquoi cherchez-vous le vivant? Parce que nous, la version qu'on connaît, on dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Non, la version originale dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Oh, pourquoi chercher la gloire dans les hommes, dans les techniques humaines? La gloire, c'est dans celui-là qui a dit, tout est accompli. Il a dit, je suis plus que Salomon. Je suis celui qui guérit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus-Christ, la gloire de Dieu. C'est ça, bien-aimé. N'allons pas vers les citernes crevassées. Les sites de rencontres, tout ça. C'est des citernes crevassées. C'est Dieu qui est la source, bien-aimé. N'allons pas vers les citernes crevassées. On te propose crédit sur crédit. Et on te lie. C'est Dieu qui est la source. Acceptons d'obtenir les choses au bon moment. Obtiens la voiture au bon moment. Le diplôme au bon moment. Attends, bien-aimé. Accepte d'attendre. Beaucoup de gens ne veulent pas attendre. Ils veulent obtenir rapidement les choses. Ils veulent que rien ne leur résiste. Non. Avec Dieu, nous allons apprendre à ce que certaines choses vont résister. Nous les aurons au bon moment. N'allons pas chercher les certaines crevassées. Nous allons aboutir chez des magiciens déguisés en serviteurs de Dieu. C'est très, très dangereux. C'est ainsi que beaucoup de populations sont trompées par des magiciens déguisés en serviteurs de Dieu parce qu'ils ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas la source, ils veulent les citernes crevassées. Ils veulent gérer. Il va venir avec 500$. Comme une sœur qui avait écouté une des prédications, elle m'a dit, mais ça m'a libéré parce que moi, je cherchais tellement un enfant. Qu'un jour d'ailleurs, pour que en fonction des prédications que les gens donnent en Afrique là-bas. Donc il s'est dit, bon, je vais donner 500 dollars à Dieu. J'avais 500 dollars. C'est beaucoup. Je vais donner 500 dollars à Dieu. Dieu, c'est comme si Dieu serait obligé de me donner mon enfant. Elle a donné 500 dollars. Ça a été bien mangé par les gens qui ont pris ça. Et elle n'a pas eu d'enfant. Mais cependant, on lui a prophétisé qu'elle aura la même année l'enfant. Elle a attendu plus de des années, ce n'est pas venu. Elle a compris que notre convoitise peut nous amener loin. Apprenons à attendre quand il le faut. C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur dit dans Jean 16, 24, « Jusque-là, vous n'avez pas demandé. Demandez, cela vous sera donné, afin que votre joie soit parfaite. Nous n'avons pas un Dieu pauvre ni bloqué. C'est un Dieu de largesse, l'éternel de largesse. » Psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Bien-aimés, soyons cohérents. C'est Dieu qui nous a donné ce qu'on avait. Continuons à les laisser nous donner dans l'avenir. Il nous a donné, maintenant nous voulons retenir et en faire comme nous on veut. Ça finira mal. C'est des citernes crevassées. Il t'a donné la beauté, l'intelligence, la force, l'église, la prière, le don spirituel, les pasteurs, il t'a donné des dons. Eh bien, tu as pris ça de lui, maintenant tu veux gérer ça à ta manière. Citerne crevassée. Oublie ce que Dieu t'a donné, concentre-toi sur lui-même et continue à puiser de lui. Continue à attendre la pluie. C'est ça, bien-aimé. Ne sois pas esclave de Maïm, sois dépendant de Shamaïm, là. L'eau qui vient du ciel, et non pas l'eau qu'on gère sur la terre. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons apprendre réellement que c'est toi la source. Nous voulons, Seigneur, rester branchés sur toi, la source, et non pas nous diriger dans la production, dans la construction des citernes crevassées, Seigneur. Nous ne cherchons pas à retenir ce que tu nous donnes. Nous voulons laisser couler ce que tu nous donnes. Quand tu nous donnes des choses, Seigneur, nous voulons les faire fonctionner, Seigneur, afin que cela se renouvelle. Car tu nous as promis des fleuves d'eau vive, et c'est ce que nous voulons voir se manifester et couler. Libère-nous de l'égoïsme, de la convoitise, de l'orgueil, de l'esprit de rébellion qui nous empêche de dépendre de toi et qui nous pousse à vouloir gérer nous-mêmes les bénédictions qui viennent encore de toi. Quelle contradiction, Seigneur. Libère-nous de la paresse qui nous empêche de vivre par la foi. Nous voulons conserver un état de guerrier et marcher par la foi chaque jour. Nous ne voulons pas la paresse des acquis. Quand les acquis sont là, nous voulons nous reposer sur ces acquis. Non, nous voulons toujours être inondés par ta pluie, Seigneur. Inondés par ta pluie, Seigneur. Nous refusons, oh les citernes, car elles finissent par se trouer, Seigneur. Oh, Père éternel, merci, Seigneur, de nous plonger dans ta pluie, dans ta rivière, qui ne s'arrête jamais, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia.